France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
C'est l'une des séries SF les plus attendues, Severance. La saison 2 est enfin diffusée sur Apple TV. L'occasion pour nous de nous interroger sur ce que la science-fiction fait endurer au cerveau humain. On connaît l'aphorisme « lire dans les pensées », qui est d'abord une image de la littérature. Même Proust, dans sa recherche, a imaginé l'invention d'une machine capable de décoder les pensées d'Albertine. Cette idée a largement infusé dans la science-fiction et dans les neurosciences. Et les auteurs ont également investi d'autres concepts, manipulation de la mémoire, abolition du sommeil, ou celui de dissociation au cœur de la série Severance, soit l'existence de deux esprits dans un même cerveau. Que pourrait un cerveau pousser au-delà de ses limites ? Neuroscience-fiction, la SF nous retourne le cerveau. Pierre Cassou-Nogaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur à l'Université Paris 8 et membre de l'Institut Universitaire de France et l'auteur d'ouvrages comme Technofiction aux éditions du Cerf et Lire le cerveau, neuroscience-fiction aux éditions du Seuil. Et nous sommes en ligne avec Laurent Vercueil, bonjour.
Bonjour, déjà.
Vous êtes médecin et neurologue au CHU Grenoble-Alpes, membre du laboratoire de psychologie et neurocognition de Grenoble, l'auteur de plusieurs essais de vulgarisation scientifique, et notamment de neuroscience-fiction, Les cerveaux d'ailleurs et de demain, aux éditions du Bélial. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous écouter en nous suivant sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous nos ressources, nos sources. C'est sur notre fil Science CQFD. Alors quels sont les thèmes, les mécanismes cérébraux qui font du cerveau humain un terreau très fertile pour la SF ? Et les concepts formulés par les auteurs sont-ils prédestinés à ne rester que des concepts ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, comment concevoir un lecteur de cerveau ? La question se pose depuis longtemps. On commence avec notre archive du jour. Nous sommes en 54.
L'électroencéphalographie est la science qui se propose d'inscrire l'activité électrique cérébrale. En pratique, les électroencéphalographistes appliquent des électrodes sur le cuir chevelu et par l'intermédiaire d'un amplificateur inscripteur enregistrent des courbes traduisant les variations de potentiel de ces électrodes sous l'influence de l'activité électrique cérébrale.
Et que déduit-on de l'examen de ces courbes ?
Les courbes sont extrêmement précieuses pour le dépistage de l'épilepsie, pour la localisation des tumeurs cérébrales et le pronostic des traumatismes du crâne. Chez les sujets normaux, des courbes peuvent être relevées pendant le sommeil provoqué et seront extrêmement importantes pour régler la conduite de l'anesthésiste au cours d'une intervention chirurgicale. La surveillance de l'électroencéphalogramme est d'autre part extrêmement importante, car des signes de souffrance cérébrale peuvent apparaître brusquement sous forme de pointons ou de polypointons. Il est indispensable d'y apporter un remède immédiatement par une inhalation d'oxygène.
C'est donc là un nouveau moyen d'investigation particulièrement précieux pour tout ce qui concerne l'activité du cerveau, normale ou pathologique.
À l'invention de l'électroencéphalographie, un extrait de l'émission Paris vous parle, diffusée en 1954 sur la RDF. Alors c'est en effet l'un des premiers outils pour l'investigation du cerveau. Mais Laurent Vercueil, avant de parler de littérature, on a déjà beaucoup de tentatives dans le champ scientifique.
Et c'est très intéressant l'extrait que vous avez passé là, parce que on a fêté les 100 ans de la découverte de l'électroencéphalogramme l'an dernier. L'électroencéphalogramme, qui est encore utilisé, encore très très utile, a bénéficié surtout ces dernières décennies du développement des outils de traitement du signal qui font qu'on va beaucoup plus loin qu'à l'époque. Mais ce qu'a dit la personne là qui était citée, on pourrait le redire aujourd'hui, hein, ça reste un examen qui est très utile à la fois sur le plan médical neurologique et sur le plan neuroscientifique, notamment dans les informations que ça nous apporte sur le fonctionnement du cerveau et les moyens qu'on a aujourd'hui de décoder ces informations avec des outils qui relèvent notamment de l'IA, bien sûr.
Pierre Cassou-Nogaz, votre réaction vous aussi à l'écoute de cette archive ?
Bien, ça me faisait penser à l'article antérieur du philosophe Feigl, qui est un philosophe d'origine autrichienne qui va émigrer aux États-Unis et qui lui invente un peu avant, en 1937, l'autocérébroscope. Et l'autocérébroscope, c'est un appareil qui permet de voir l'activité de son propre cerveau. Voilà, c'est intéressant que c'est un appareil donc dont Feigl ne décrit pas exactement le mécanisme, mais qui projette devant le sujet, l'état d'activité de son propre cerveau. Et le sujet, pour Feigl, va pouvoir s'observer et lui-même coordonner ses propres pensées aux états de son cerveau. Donc il y a à la fois dans l'imaginaire de Feigl, qui est un philosophe à une époque en plus, 1937, où la connaissance du cerveau est très partielle et au moins elle est sans doute encore partielle, mais elle s'est beaucoup moins développée qu'aujourd'hui. On a quand même un appareil qui rejoint, je pense, certaines expériences des neurosciences actuelles. Et ce qui est intéressant dans l'image de Feigl, et à la différence de l'extrait qu'on entendait, c'est que Feigl, peut-être parce que c'est un philosophe, tourne l'appareil sur son propre cerveau. Hein, c'est-à-dire, le sujet s'observe lui-même. Alors que voilà, les neuroscientifiques vont plutôt observer les autres sujets. Voilà. Mais il y a la même démarche d'essayer de, ici, imaginairement, hein, de saisir le cerveau pour justement apprendre des choses sur la pensée.
L'autocérébroscope, en effet. On verra comment ce concept philosophique rencontre des réminiscences contemporaines. Pierre Cassou-Nogues, pour continuer sur les références bibliographiques, sur ce décodage du cerveau, on a quand même une riche bibliothèque hein, qui cherche justement à scruter et à interpréter le cerveau et à bien comprendre justement les pensées qui en découlent. Allô, Laurent Vercueil ?
Oui.
Oui, vous êtes là.
Ah, je ne pensais pas que c'était à moi.
Oui, pardon.
Oui. Alors, on a une triche bibliothèque. Et en fait, ce qui est intéressant, juste pour prolonger encore un petit peu ce qu'on disait sur l'électroencéphalogramme, c'est que le découvreur, qui était un neuropsychiatre de Iéna, Hans Berger, en fait, avait passé sa vie sa carrière de neurologue à chercher ce qui pouvait sous-tendre une forme de ce qu'il pensait être une télépathie. C'est-à-dire que, jeune, il avait subi un accident de cheval très grave, il était passé à deux doigts de la mort. Il avait reçu un message de sa sœur, qui avait envoyé un télégramme depuis à de grandes distances de là, qui s'inquiétait de sa santé. Et pour lui, c'était la preuve qu'il y avait un moyen de communiquer de cerveau à cerveau à grande distance. Et en fait, sa découverte de l'EEG, elle repose sur cette recherche d'une espèce d'énergie psychique qui pourrait être transbahutée d'un cerveau à un autre à distance. Donc c'est très intéressant de voir à quel point on pouvait partir comme ça de base extrêmement fumeuse pour arriver finalement à un outil qui nous est encore très 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 utile. Donc, alors, assez rapidement, on s'est intéressé effectivement au signal. Très vite, les prétentions de Berger, que ce soit vraiment la pensée qui soit lisible, sont tombées. Hein. On s'est vite rendu compte qu'on était loin de comprendre le fonctionnement intime du cerveau juste à l'aide de variations de signaux électriques. Mais néanmoins, on a pu quand même développer, alors ce que je disais un petit peu, grâce notamment à l'IA, alors ça c'est vraiment les dernières décennies, des outils de lecture, en fait, de patrons, de patterns, qui vont correspondre à telle ou telle activité. Alors, c'est particulièrement vrai dans le traitement visuel, le traitement de l'image, qui fait qu'on peut lire, grâce donc, à la surface du cerveau, grâce à des électrodes posées à la surface du cerveau, les images que voient, par exemple, des sujets lorsqu'on reconnaît ces patterns à l'aide d'un traitement d'information appliqué au signal. Voilà. Ça, c'est un petit peu les développements les plus, peut-être déjà un petit peu anciens, mais qui sont extrêmement robustes.
Pierre Cassou-Nogues, réussir à lire les pensées dans un cerveau, c'est devenu une image importante dans les neurosciences contemporaines depuis le début des années 2000, on peut dire.
Oui, alors effectivement, moi j'ai commencé à m'intéresser à ces questions. Je suis philosophe, donc, et l'essentiel de mon intérêt, c'est la façon en fait dont la fiction vient informer les sciences, hein, vient jouer et participer à la construction de rationalité, en fait, scientifique ou philosophique. Et j'ai commencé à m'intéresser aux neurosciences. C'était à l'occasion d'un colloque où j'étais un peu par hasard et quelqu'un expliquait comment l'équipe dans laquelle elle travaillait, c'était une chercheuse, s'attachait à, par des techniques d'imagerie cérébrale dans les détails desquels je ne vais pas entrer sans doute, et Laurent Vercueil les connaît beaucoup mieux que moi, mais disons, elle s'attachait à saisir les intentions du sujet dans son cerveau. Et elle parlait d'intention, et en même temps, ce qu'elle, c'était donc au début des années, c'était vers 2010, ce qu'elle saisissait, c'était des gestes minimales. C'est-à-dire, le sujet était enfermé dans un scanner, il avait un bouton devant lui, et il s'agissait d'appuyer sur le bouton, et il s'agissait donc d'essayer de saisir l'intention qu'aurait le sujet d'appuyer sur un bouton. Et ça posait, c'est une expérience qui pose des problèmes philosophiques très importants, et en particulier, est-ce qu'on peut parler d'intention lorsque je suis enfermé dans un scanner, qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est appuyer sur un bouton? Est-ce qu'il s'agit d'une intention? Est-ce que quand j'appuie sur le bouton, j'ai en fait l'intention d'appuyer sur le bouton? En général, quand on a une intention, on se dit, voilà, ben, par exemple, je réfléchis et j'ai l'intention ce soir de faire ceci et cela. C'est projeté, c'est pas simplement faire un geste, hein, c'est pas simplement une pensée qui accompagnerait ce geste. Donc tout ce vocabulaire de l'intention, tout ce vocabulaire qu'utilisait la chercheuse et l'équipe à laquelle elle appartenait, m'avait beaucoup frappé. Donc j'ai commencé à lire, et ce qui m'a intéressé, c'était souvent l'écart entre les expériences qui sont effectivement réalisées et les ambitions des chercheurs qui sont indiquées au début de l'article et qui effectivement rejoignent des images de la science-fiction et tout un imaginaire dont on voit qu'il vient informer des buts scientifiques ou des expériences qui restent beaucoup plus modestes et ponctuelles, et qui finalement, au moins dont il ne va pas de soi, qu'on peut les exprimer dans ces termes aussi généraux.
À propos justement d'écart et de limite, des machines de neurosciences qui arrivent à saisir certains éléments de rêve ou de pensée, ça existe déjà. Laurent Vercueil, aujourd'hui, que sait-on faire ?
Alors aujourd'hui, on peut par exemple présenter des images à des sujets avant leur sommeil et recueillir au cours du sommeil des patterns d'activité qui correspondent à ces images, et donc leur dire pendant votre rêve, vous avez vu telle ou telle image, et les sujets vont confirmer. Alors comme toujours dans le sommeil, l'expérience repose sur le rendu, le rapport que fait le sujet à son réveil. Hein. C'est un rêve, on a du mal à avoir accès au moment où il se déroule, on a accès au moment où le sujet se réveille et qu'il en donne le contenu. Hein. Donc ça a été bien montré, de pouvoir comme ça, en gros, en quelque sorte, non seulement influencer le contenu des rêves, ça c'est assez trivial, mais surtout de pouvoir reconnaître dans l'activité cérébrale produite pendant le rêve des éléments qui ont été présentés avant le sommeil. Je vais juste revenir un petit peu sur ce que disait Pierre Cassou-Nogues, parce que c'est très joli. Il y a un joli aller-retour comme ça entre la littérature scientifique de sciences dures, on va dire, et puis la littérature de SF. C'est notamment l'expérience qui est assez célèbre, hein, de Benjamin Libet de 1983, donc qui remonte pas mal, et qui repose justement sur l'intention de bouger. Donc, comme l'a dit Pierre Cassou-Nogues, c'est extrêmement réducteur. Hein, c'est juste, je vais bouger, mais en même temps, c'est moi qui décide à quel moment je bouge. Donc Benjamin Libet a équipé les gens d'électromyogrammes et puis à nouveau d'électroencéphalogrammes qui permet de recueillir l'activité cérébrale et de pouvoir comme ça mesurer ce qui se passe avant que le sujet fasse le geste. Hein. Donc la consigne, c'est vous bougez, mais seulement quand vous voulez. Il n'y a rien qui vous dit de bouger, c'est vous qui décidez. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte à cette époque-là, hein, c'est qu'il y avait une onde cérébrale, qui s'appelle l'onde de préparation motrice, qui survient en gros presque une demi-seconde avant le geste, avant le mouvement, et qui en fait va précéder d'environ 300 à 400 millisecondes la conscience du mouvement. C'est-à-dire que le sujet dit « je vais bouger », et en fait, lorsqu'il pense « je vais bouger », et qu'il bouge dans les millisecondes qui suivent, il y a cette onde qui est repérable bien longtemps avant. En quelque sorte, c'était un peu un coup de tonnerre dans la notion de libre-arbitre, puisqu'on se disait « mais le cerveau va décider avant que j'ai conscience de décider ». Et bien des années plus tard, parce qu'il s'agit d'un recueil de nouvelles de Ted Chiang. Ted Chiang, c'est un auteur nord-américain qui est extrêmement subtil, enfin, dont je recommande la lecture. Hein. Il fait essentiellement des nouvelles, dont l'une d'ailleurs a permis à Denis Villeneuve de faire son film Premier Contact, hein, qui en a inspiré. Et dans une des nouvelles, Ted Chiang imagine un petit dispositif commercialisé qui consiste en fait uniquement en un petit voyant et un bouton. Et ce voyant s'allume uniquement lorsque on a l'intention d'appuyer sur le bouton, et pas en dehors. Et donc, en fait, les gens vont l'acheter, ce dispositif, uniquement pour essayer de s'amuser avec, pour essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent tromper. Et en fait, ils n'arrivent pas à le tromper, c'est extrêmement robuste. Le dispositif détecte l'intention du cerveau des utilisateurs avant qu'ils fassent le geste. Voilà.
En tout cas, pour prolonger ce que vous dites par rapport à Ted Chiang sur voilà comment décrypter les intentions, on a aussi dans la littérature d'autres exemples assez savoureux. Je pense au Maître des rêves de Roger Zelazny, 1965, Laurent Vercueil, ou encore même La machine à lire les pensées en 1937 de André Mauroy.
Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement des exemples qui sont fascinants, où on voit des dispositifs qui permettent en gros de pénétrer à l'intérieur de la tête des gens. Alors, le sommeil est un terreau magnifique pour la science-fiction, pas uniquement, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai aussi travaillé sur les contes traditionnels, et le sommeil est un opérateur fictionnel extrêmement puissant, parce que on voit bien quelle vulnérabilité on a, et on se dit que c'est le moment où, justement, on peut pénétrer peut-être à l'intérieur de la tête des gens à leur insu, en quelque sorte. Et donc, dans ces dispositifs, il s'agit effectivement d'aller influencer les rêves. Alors, Inception est un des avatars les plus fameux, hein, pour modifier le comportement des gens ou pour aller, comme c'était le cas pour le roman d'André Mauroy, déceler des informations cachées, hein, puisqu'on arrive à détecter des choses qui ne sont pas émises par le sujet lui-même à l'état d'éveil.
Pierre Cassou, Nogas, vous souhaitiez réagir?
Oui. Alors, la machine à lire les pensées, hein, d'André Mauroy, c'est un roman que j'adore et vraiment que je trouve très très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une machine qui ne passe pas par le cerveau, donc qui lit la pensée, ou plus exactement, qui lit le monologue intérieur. Quand on se parle à soi dans sa tête, si par exemple je me récite un vers dans ma tête, ou un numéro de téléphone, ou je me dis, ah bah tout à l'heure je vais faire ceci et cela. Et pour Mauroy, en fait, la machine, au lieu d'être dirigée vers le cerveau, elle est dirigée vers la gorge, et Mauroy utilise une théorie qui était en vogue à l'époque, qui vient de William James, le psychologue du début du XXe siècle, selon laquelle quand on se parle dans sa tête, en fait, on fait des mouvements de glotte, mais on ne donne pas la puissance vocale. Et ensuite, donc cette machine décrypte les mouvements de glotte, les enregistre en fait, et les rend, hein, donc sous forme d'un discours. Et on peut ainsi capter le discours des autres. Et ce qui est vraiment intéressant dans le roman, c'est que à aucun moment le fonctionnement de la machine est mis en doute. C'est-à-dire, tout le monde accepte que la machine dit effectivement, reprend, enregistre ce que le sujet a dit, hein, ou s'est dit. Et pourtant, la machine va être abandonnée. Elle ne va pas être utilisée. Et la conclusion, qui est pour moi très intéressante, hein, à laquelle arrivent les personnages, c'est qu'en fait, le discours intérieur n'est pas plus vrai que le discours qu'on dit aux autres. À savoir, je peux me dire, je fais la queue quelque part, à la boulangerie, quelqu'un me double, je dis, oh là là, celui-là, quel crétin, ou je vais, je sais pas, bon, voilà. Mais en fait, ces insultes que je me dis dans ma tête, je ne les pense pas vraiment. Hein. Finalement, ce que je me dis, on sait très bien comme on peut se mentir à soi-même, ce que je me dis ne reflète pas vraiment ce qu'on peut appeler la réalité de la pensée. Et du coup, où se trouve-t-elle cette réalité de la pensée? Et André Mauroy, hein, bien à l'avance, finalement, met en question cette idée que il y a un intérêt, finalement, ou plutôt il pose la question, hein, de l'intérêt qu'il y a à saisir les pensées. Pourquoi veut-on saisir les pensées? Que cherche-t-on dans ces pensées qui ne s'exprimeraient pas, hein, dans les gestes habituels? Et il met en question, hein, ce mythe, en fait, d'une pensée qui serait proprement intérieure, enfermée dans la personnalité du sujet, et qu'il faudrait aller lire de force, en quelque sorte, hein, sans que celui-ci l'exprime. Et donc, c'est vraiment un roman très intéressant à plusieurs égards.
Qui remet donc en question le principe même de ces engins, hein, que capterait en réalité une machine capable de lire les pensées. Alors, pourra-t-on vraiment lire les rêves, manipuler les souvenirs, abolir le sommeil, ou dissocier le cerveau? Restez avec nous.
Une petite question. Vous ne vous souvenez jamais vraiment du début de vos rêves, n'est-ce pas? Vous atterrissez systématiquement au beau milieu de l'action.
C'est juste, oui.
On est arrivé comment ici?
Eh bien, on sort à peine de...
Comment êtes-vous arrivé ici? Réfléchissez, Ariane. Où êtes-vous en ce moment?
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
On est en train de rêver?
Vous êtes au beau milieu d'un atelier pratique, là, endormi. Vous suivez votre première leçon de rêve partagé. Gardez votre calme.
gardez votre calme, vous êtes sur France Culture et vous suivez votre première leçon de neuroscience-fiction avec Pierre Kasounoguès et Laurent Vercueil. Nous parlons donc du cerveau humain et de ce que la SF a prévu de lui faire endurer. On vient d'évoquer les allers-retours entre littérature scientifique et la littérature de la science-fiction. On vient d'évoquer également quelques limites, même conceptuelles. Laurent Vercueil, par rapport justement à cette idée d'une machine capable de lire un cerveau, ça pose en effet toute une série de difficultés conceptuelles.
Bien sûr, bien sûr. Et Pierre Kasounoguès a tout à fait raison. Quelle est la pensée qu'on va essayer de chercher à travers... Moi, j'ai aussi un petit peu l'habitude de rappeler que la meilleure machine à détecter la pensée des autres, c'est notre propre cerveau. Nous avons un cerveau qui est taillé pour détecter des signaux qui sont souvent des signaux à bas bruit, hein, qui sont des signaux sociaux, des signaux dont on ne prend pas nécessairement conscience, et qui sont en fait des indicateurs des états mentaux d'autrui. Hein. Nous sommes des êtres éminemment sociaux, donc nous naviguons au milieu de signaux qui sont des signaux qui vont refléter en fait les dispositions de l'entourage vis-à-vis de nos propres actions. Donc nous avons une machine à lire la pensée automatiquement dans notre cerveau déjà bien câblé.
Cette machine à lire la pensée qui est donc notre propre machine, notre cerveau, Pierre Kasounoguès, vous parlez justement dans votre ouvrage que nous sommes prêts à accepter ce que vous appelez le syndrome du thermomètre.
Oui, alors le syndrome du thermomètre, pour moi, donc c'est une transformation induite par les technologies contemporaines, pas seulement les technosciences, pas seulement les neurosciences, mais qui a été induite par les neurosciences. Ce que j'appelle le syndrome du thermomètre, c'est le fait de laisser le soin à une machine de décrypter ce qui devrait relever de l'expérience en première personne. Donc je le dis de façon un peu compliquée, c'est le fait qu'une machine me dise, par exemple, ce que je sens ou ce que je pense. Hein, ce que je sens ou ce que je pense, je suis censé le savoir moi-même. Hein, si le matin on me dit « Ah Pierre, t'as l'air fatigué », ben je dis oui ou non. Je suis censé savoir comment je me sens.
Vous évoquez par exemple toutes les applis qu'on a sur les téléphones, voilà. Si on a bien dormi.
Voilà, exactement. On a par exemple, il y a sur les téléphones une application, on met le téléphone sous l'oreiller et le matin, l'application nous dit si on a bien dormi. Mais là encore, je devrais savoir si j'ai bien dormi ou non. C'est quelque chose qui relève de la première personne et qui est finalement délégué à la technologie. Un autre exemple, hein, ce sont les capteurs, les capteurs de puissance et tout l'appareillage qu'ont les coureurs cyclistes sur leur vélo. Les coureurs cyclistes avaient l'habitude, devaient s'interroger sur leur fatigue. Est-ce que, en continuant à grimper à ce rythme-là, ils allaient tenir? C'était une question en première personne. Ils ont maintenant un ensemble de capteurs de telle sorte qu'ils savent que si ils sont dans telle zone montrée sur le capteur, ils vont tenir. Ils peuvent tenir. Et de fait, ils courent mieux de cette façon. Mais là encore, c'est une expérience en première personne qui est déléguée à la machine. Et je pense qu'il y a une multitude de technologies qui vont dans ce sens. Et cette idée que ce qui relève de la première personne peut en fait être lu par des machines et peut-être plus précisément même que nous ne le faisons nous-mêmes, cette idée vient des neurosciences et de la philosophie, si l'on veut, hein, qui fonde les neurosciences. Et tout à l'heure, on parlait de Feigl et de l'autocérébroscope, de l'idée que je vais pouvoir voir mon cerveau et coordonner mes pensées à mon cerveau, c'est une image. Mais à partir de là, Feigl et puis un scientifique comme Minsky développent l'idée qu'un tel autocérébroscope nous ferait pour la première fois véritablement conscient. C'est-à-dire que dans mon cerveau, je pourrais voir la réalité de ma pensée. Hein. Et donc, pour moi, c'est vraiment une transformation de notre forme de vie. Le fait que nous tendons à ne plus être dépositaire de nos sensations et de notre pensée.
Voilà, et puis je rappelle que dans votre ouvrage « Lire le cerveau », Pierre Kasounoguès, vous proposez des expériences de pensée, hein, si nous parvenions à créer de telles machines, quelle en serait la portée? À présent, si nous parvenions à nous dissocier, à dissocier notre vie professionnelle de notre vie personnelle, c'est un scénario imaginé par Dan Erickson.
Bonjour, je m'appelle Marc S., et j'ai accepté de mon plein gré d'avoir recours à une opération de dissociation. Je consens à séparer les souvenirs de ma vie professionnelle de ceux de ma vie personnelle. J'atteste avoir compris qu'une fois l'opération terminée, je n'aurai plus accès à mes souvenirs personnels à l'étage des dissociés.
Dites gratitude.
Pas plus que je n'aurai de souvenirs professionnels. Désolé. Quand je rentrerai chez moi, après le travail. Je fais cette déclaration sans contrainte.
Voilà, la bande-annonce de Severance, la saison 1. Severance, Laurent Vercueil, c'est aussi une façon pour la SF de s'emparer des neurosciences.
Complètement. On est tout à fait dans quelque chose qu'on connaît et qui est tout à fait fascinant, hein, qui est la capacité qu'a notre cerveau de effectivement dissocier, c'est-à-dire d'avoir plusieurs champs de conscience ou disons des champs attentionnels extrêmement limités qui vont permettre d'ignorer d'autres choses. Un exemple tout simple, c'est par exemple ce que fait le magicien, hein, en attirant notre attention, ne nous rend pas conscient d'autre chose. Donc on peut en gros limiter notre champ de conscience à des choses extrêmement précises en ignorant tout à fait le reste. Et si on ignore le reste, on ne mémorise pas. C'est-à-dire que le premier passage pour aller dans la mémoire, c'est quand même de rentrer dans le champ d'attention. Ce à quoi on n'est pas attentif, on ne parvient pas à en créer un souvenir. Donc la dissociation, ça va consister pour ces personnages-là, hein, à avoir en gros un champ de conscience extrêmement limité dans un secteur qui leur fait complètement ignorer toute une autre partie de leur activité, un peu comme lorsque on fait un trajet quotidien de manière assez routinière et que arrivant au but du trajet, que ce soit à pied ou même parfois en voiture, on réalise tout d'un coup qu'on est arrivé et on se dit mais comment ça se fait, j'ai pas été conscient du trajet alors qu'on a parfaitement conduit, on n'a pas eu d'accident, nos pensées en fait ont vagabondé, nous avons traité plein de choses, mais nous avons ignoré en quelque sorte et de fait on n'a aucun souvenir de ce trajet, on peut pas se rappeler du détail du trajet alors qu'on a bien fait les choses. Donc la dissociation est un phénomène physiologique en quelque sorte, alors qu'il peut aussi être pathologique, hein, ouais. On peut aussi le rencontrer en clinique lorsque ouais. Notamment les gens par exemple n'arrivent plus à accéder au contrôle de certaines sensations ou au contrôle moteur, hein. On peut voir des gens qui ont des paralysies, on parle de troubles neurologiques fonctionnels, lorsque les gens sont dissociés à un point tel qu'ils n'arrivent plus à bouger un bras alors que leur système nerveux fonctionne tout à fait correctement.
En tout cas, outre cet aspect pathologique, en effet, on a tous fait cette expérience du vagabondage mental, cette sensation de ne pas avoir été là. Et ça aussi, Pierre Cassou-Nogues, avant d'être un sujet de neurosciences ou même de science-fiction, la dissociation a d'abord été une expérience de pensée.
Oui, c'est une expérience de pensée que propose John Locke au début du XVIIIe siècle. Il imagine, effectivement un homme de jour, enfin un homme de jour et un homme de la nuit, hein, donc le même corps qui aurait des mémoires du jour et des mémoires de la nuit et qui ne communiquerait pas et qui serait dissocié. Donc, et Locke dit que pour lui, ce sont en fait véritablement deux personnes, même deux personnes au sens juridique, dans le même corps. Hein, et que si par exemple l'homme du jour commettait un crime, l'homme de la nuit ne pourrait pas être condamné pour ça. Et c'est une image qui va parcourir l'histoire de la philosophie, hein, qu'on retrouve chez des auteurs comme Bachelard, par exemple, beaucoup plus récemment, mais qu'on retrouve aussi dans la littérature, avec évidemment le cas le plus célèbre de dissociation, c'est le roman de Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, hein, qui raconte exactement cette histoire avec donc Dr. Jekyll qui est le bon médecin et qui fabrique une drogue lui permettant de libérer en fait ses d'autres pulsions, disons, hein, qui vont former Mr. Hyde, et l'un ne reconnaît plus l'autre, sauf qu'ils finissent évidemment, et c'est en général tout le jeu de ces fictions, ils finissent par communiquer.
Justement, là, vous me permettez de rebondir à nouveau sur la question du contexte pathologique de la dissociation. Laurent Vercueil, ça aussi, c'est quelque chose qu'on observe dans certains cas, hein, cette dissociation pathologique.
Alors, en pathologie, on a des cas, alors extrêmement rares, heureusement, hein, de ce qu'on appelle le split brain, c'est-à-dire le cerveau divisé en deux. Ça peut arriver, par exemple, lorsqu'on a un accident vasculaire cérébral qui va couper le corps calleux. Le corps calleux, c'est le pont de fibres qui relie les deux hémisphères. Et du coup, la personne est toujours porteur de deux hémisphères, mais les deux hémisphères ne communiquent plus entre eux. Il n'y a plus d'informations qui transitent d'un hémisphère à l'autre. Ce qui fait que, comme chaque hémisphère contrôle en gros la moitié du corps opposé, hein, mon hémisphère gauche contrôle mon bras droit, mon hémisphère droit contrôle mon bras gauche, les membres peuvent avoir des activités qui sont opposées l'une à l'autre. On parle de, alors, un terme savant qui s'appelle la dyspraxie diagnostique. Des sujets, par exemple, peuvent, en mangeant, prendre une fourchette d'une main et jeter la fourchette de l'autre main parce que le cerveau droit n'est pas d'accord avec le cerveau gauche sur l'intention de s'alimenter. Alors, c'est en fait quelque chose qui a des racines assez lointaines, hein, en dehors de ces cas pathologiques, puisque au XIXe siècle, Paul Brocal, un anthropologue médecin français, avait démontré la présence dans l'hémisphère gauche de régions cérébrales qui étaient, on appelle maintenant, dominantes pour le langage, c'est-à-dire qui s'occupaient de la production du langage. Alors ça, c'était en France. Charcot, d'ailleurs, créait l'école neurologique. Et en Angleterre, à l'époque, la rivalité anglaise-française était au paroxysme. Jackson, qui était le neurologue, en gros l'équivalent de Charcot en Angleterre, s'est mis à décrire ce qui se passait dans le cerveau droit. Et le cerveau droit, lui, était beaucoup moins doué pour le langage. Il semble en fait qu'il comprenne le langage, hein, mais en tout cas, a du mal à produire du langage tout seul, et avait par contre un rôle plus important dans tout ce qui est visio-spatial, organisation dans l'espace, etc. Et les Anglais, à l'époque victorienne, ont commencé à élaborer une théorie, et il est possible que Stevenson ait été inspiré dans son histoire de dédoublement, hein, entre le Dr Jekyll et Mr Hyde, d'une théorie où, en gros, le cerveau gauche, qui était le cerveau, donc, langagier, verbal, qui pouvait raconter des histoires, etc., devait tenir en laisse, c'était le terme utilisé, hein, tenir en laisse le cerveau droit, qui lui était plus animal, on va dire, occupé donc de se déplacer dans l'espace, etc. Et c'est intéressant parce que cette asymétrie cérébrale, qui repose sur des choses qui sont réelles, hein, mais qui on la trouve encore aujourd'hui dans des ouvrages un petit peu de vulgarisation ou de développement personnel, où on parle de gens, et c'est tout à fait un mythe, hein, plutôt cerveau droit, plutôt cerveau gauche. Il est évident que nous n'avons pas deux cerveaux, nous avons un seul cerveau qui intègre les informations traitées par les deux hémisphères, évidemment.
En tout cas, cette intervention chirurgicale que vous venez de nous décrire pour séparer les hémisphères gauche et droit, est-ce que ça signifie que dans un scénario comme la savant, ce serait possible de créer deux esprits distincts dans un seul et même cerveau?
C'est une éventualité. Les deux parties du corps s'expriment de manière simultanée. Donc l'intervention chirurgicale, c'est la chaosotomie. Ça consiste en fait effectivement à séparer deux cerveaux lorsqu'il y a une épilepsie gravissime, intraitable, avec des crises généralisées. Et le fait de couper le pont de fibres qui relie les deux cerveaux évite les généralisations. Donc ce sont des gens qui ne vont plus tomber, par exemple, au cours des crises. Et en fait, dans les années 50-60, Rogers Perry et Gazzaniga ont étudié beaucoup ces patients, et ça a permis notamment de bien démontrer les fonctions respectives des deux hémisphères. Donc c'était quelque chose qui était effectivement assez traumatique, hein, mais en même temps a donné l'occasion de travaux qui ont permis de comprendre un petit peu les fonctions respectives des deux hémisphères. Alors pour le cas de Severance, encore une fois, les gens qui ont une séparation des deux hémisphères ont des comportements qui s'opposent dans l'instant, hein. Ils n'ont pas une alternance, un coup l'hémisphère gauche pendant la journée, un coup l'hémisphère droit la nuit.
En tout cas, la série pose aussi la question de l'amnésie sélective qui touche les souvenirs personnels d'un patient. L'ASF nous offre de nombreux exemples de dispositifs pour manipuler la mémoire, voire l'intelligence. Restez avec nous. bande originale de Sévérance en direct sur France Culture, car nous parlons de l'influence des neurosciences sur la science-fiction et vice-versa. On en parle avec nos deux invités du jour, Pierre Cassou-Noguès, philosophe et écrivain, professeur à l'Université Paris 8 et membre de l'Institut Universitaire de France, et Laurent Vercueil, médecin et neurologue au CHU Grenoble-Alpes et membre du LPNC de Grenoble. Dans Sévérance, Laurent Vercueil, il y a aussi cette idée d'amnésie sélective, où il ne s'agit pas d'un défaut de mémorisation, mais bien de l'altération de l'accès aux souvenirs.
Oui, alors c'est très particulier parce que c'est ce qu'on appelle une amnésie rétrograde, c'est-à-dire une amnésie qui porte sur quelque chose qu'on a vécu en ayant théoriquement la possibilité de créer du souvenir. Ça, c'est très difficile d'expliquer. Le plus probable, c'est que ça passe par une altération des phénomènes de consolidation. En gros, il y a une fenêtre d'opportunité, lorsqu'on vit quelque chose, pour le consolider. La plupart du temps, ce qu'on vit, malheureusement, ça n'a pas d'intérêt manifeste, et on va l'oublier. Et heureusement, sinon on aurait quand même le cerveau pollué par beaucoup de souvenirs totalement indifférents. Mais dans cette fenêtre d'opportunité, il y a des mécanismes de consolidation et de reconsolidation qui font que quelque chose va finalement être retenu et passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, donc pour constituer un véritable souvenir. Donc, une façon un peu d'expliquer comment est-ce que des personnes peuvent oublier ce qu'ils ont fait la nuit en étant pleinement conscients et en créant du souvenir au fur et à mesure, c'est se dire que le dispositif, le fameux dispositif qui est implanté dans le cerveau, va intervenir en empêchant cette période de consolidation. On n'a pas beaucoup de détails sur l'intervention, trop spéculer, mais on a l'impression un petit peu que il a un gros pansement sur le front, c'est assez médian, donc je pense que on a une vision un petit peu en radio où on voit que le dispositif est implanté en position assez centrale, probablement dans le cortex singulaire antérieur. Le cortex singulaire antérieur, c'est un dispositif assez important dans le contrôle cognitif, dans ce qui nous permet de réguler, contrôler, monitorer notre activité mentale. Donc, vous voyez que ça a peut-être un petit peu de sens. C'est peut-être pas complètement innocent, les images qu'on voit. Et les gens y ont peut-être réfléchi, quand même.
Pierre Cassou-Noguès.
Oui, alors pour moi, le récit d'amnésie le plus frappant, c'est dans le livre d'Oliver Sacks, « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ». C'est le cas de M. K, qui est un ancien marin qui, lorsqu'il avait 18 ans, a eu un accident et a perdu toute mémoire immédiate. Et donc, il se souvient de toute sa vie avant 18 ans, mais il ne se souvient pour le reste que des 3 dernières minutes. Et donc, il a une cinquantaine d'années, mais il a le même psychiatre ou neurologue depuis 20 ans, mais il a toujours l'impression de le rencontrer pour la première fois. Un jour, Oliver Sacks le met devant un miroir et il est absolument effaré, puisqu'il a toujours l'impression d'avoir grosso modo 18 ans. Et la façon dont Oliver Sacks raconte l'histoire est fascinante et c'est quelque chose où pour moi c'est vraiment une situation dans laquelle le possible de fiction et le possible de science se mêlent. C'est-à-dire que, de façon générale, je défends l'idée qu'il y a un possible de fiction. Tout à l'heure, vous demandiez à Laurent Vercueil si ce que imaginait la série Severance, c'était possible au sens de la science. Il y a un possible de fiction qui est plus large que celui, en principe, de la science. Mais dans le cas de ce récit d'Oliver Sacks, d'après ses propres expériences cliniques, on a justement une situation qu'il est en fait très difficile d'imaginer. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut même s'imaginer à la place de ce patient K sans mémoire immédiate d'une certaine façon, on ne peut pas imaginer sa vie, puisqu'on ne peut Monsieur K ne pourrait pas la raconter, sa vie. Il ne pourrait pas en faire un récit. Donc, lorsqu'on l'imagine, on commet une erreur dans cette imagination. Ici, on a vraiment une forme d'amnésie qui, en un sens, est inimaginable et qui implique une toute autre forme de vie.
Alors, peut-on imaginer, manipuler volontairement ses souvenirs et jouer sur la mémoire ? On pense à ça.
On va commencer avec votre souvenir le plus récent. À partir de là, on remontera plus ou moins dans le temps. Il faut savoir qu'à chacun de nos souvenirs correspond à un noyau émotionnel. Et quand on détruit ce noyau, cela entraîne la détérioration du souvenir. Quand vous vous réveillerez demain matin, tous les souvenirs qu'on aura pris pour cible s'étioleront puis disparaîtront. C'est un peu comme un rêve éveillé.
Est-ce que mon cerveau peut être endommagé ?
Eh bien, le principe même de cette intervention, c'est d'endommager le cerveau. Mais on est dans le même état qu'après une soirée bien arrosée.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Laurent Vercueil, d'un point de vue neuroscientifique, peut-on effacer comme ça la mémoire ?
J'aime beaucoup ce film, hein. Il est vraiment magnifique.
Vous aussi.
Mais effectivement, les souvenirs ne sont pas comme ils sont représentés, de façon un peu agglomérée dans des régions ciblées du cerveau, etc. En fait, ce qu'on pense, c'est que chaque fois qu'on génère un souvenir, chaque fois qu'on revit un souvenir, on ressuscite toute une cartographie assez large, assez distribuée, en fait, dans le cerveau, hein, qui va nous faire revivre la situation qu'on a vécue par le passé. Donc, il n'y a pas moyen de cibler des souvenirs comme le fait l'opérateur là, dans le film, en disant je vais être sélectif dans ma sélection. Ce qui a pu être fait quand même en pratique, hein, alors chez la souris, hein, c'est de jouer encore une fois sur cette période de consolidation en supprimant, par exemple, en bloquant l'expression de certaines protéines qui sont importantes dans la connexion synaptique et qui font que après un apprentissage conditionné, par exemple, l'application en fait de ces produits va empêcher la genèse de souvenirs. Donc, on peut bloquer peut-être un souvenir une fois constitué, mais on peut pas cibler des souvenirs antérieurs qui font notre existence depuis notre naissance.
Mais chez les souris, d'ailleurs, Laurent Vercueil, il y a aussi cette étude parue dans Nature en 2014, des chercheurs du MIT sont parvenus à manipuler des souvenirs via l'optogénétique. C'est une technique qui permet de commander des neurones avec de la lumière, hein, pour décrire cette technique de façon assez grossière. Mais alors, est-ce qu'on pourrait aussi donc imaginer implanter des souvenirs comme l'a fait Verhoeven avec Total Recall, d'après d'ailleurs la nouvelle de K. Dick, Souvenir à vendre, en 1966.
Alors, pour ça, il faudrait vraiment avoir des cartographies extrêmement précises, notamment de l'hippocampe chez l'être humain. Ce qu'on peut faire chez l'animal de laboratoire, hein, le rat par exemple, c'est à l'aide de sondes extrêmement nombreuses, donc placées dans l'hippocampe, avoir une cartographie très précise de l'acquisition de certains souvenirs. Hein. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a pu mettre en évidence le fait que pendant le sommeil, des cartes, alors cette fois spatiales, hein, mais présentes dans l'hippocampe, sont rejouées dans la nuit, pendant le sommeil, de manière à consolider les apprentissages, et elles sont rejouées à peu près 10 fois plus vite que ce qu'elles ont été activées pendant l'apprentissage, ce qui nous ramène aussi à quelque chose qui est présent dans Inception, hein, qui est la notion de durée des rêves, avec cette espèce d'accélération du temps au fur et à mesure qu'on plonge de rêve en rêve.
Pierre Cassou-Noguès.
Oui, on peut dire qu'il y a une autre série de films aussi qui va au contraire mettre l'accent sur la logique propre des souvenirs qui résistent aux modifications que les scientifiques essayent de leur opérer. Et je pense au film de Chris Marker, La Jetée par exemple, ou au film correspondant d'Alain René dont le titre m'échappe, mais dans l'un et l'autre cas, c'est Claude Rich dans le film d'Alain René qui joue le personnage principal et qui se retrouve, donc on s'appuie sur ses souvenirs pour le replonger en arrière dans le temps, comme s'il était entièrement replongé dans son souvenir, et il ne va pas réussir à regagner le présent parce que ses souvenirs, justement, dans leur logique propre, vont l'entraîner ailleurs, dans une sorte de répétition. Et ce que je trouve intéressant dans ces films, c'est justement qu'il met en scène une sorte de tension entre les séparations que l'on peut imaginer dans ces éléments de pensée et leur logique propre. Et de la même façon que tout à l'heure, on parlait de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et le moment où le roman devient le plus intéressant, c'est quand ces deux personnalités commencent à communiquer imparfaitement. Et je pense qu'il y a justement des tensions qui peuvent s'opérer et qui créent des situations particulièrement intéressantes.
tout cas, cette idée aussi de pouvoir intervenir comme ça sur le cerveau, de développer des facultés intellectuelles supérieures, Laurent Vercueil, ça fait penser aussi que la science-fiction, c'est aussi largement emparé du fantasme d'augmenter l'intelligence humaine, hein, même si les scientifiques ont encore beaucoup de difficultés à définir précisément ce qu'est la science-fiction. L'intelligence, je veux dire, mais dans la science-fiction, on a aussi ces tentatives-là.
Ah, complètement, hein. Il y a pas mal de films ou de romans qui reposent, dans l'intrigue repose sur le développement d'une intelligence bien supérieure à normale. Alors, Les fleurs pour Hal Gernon est un grand classique, qui est un excellent livre par ailleurs, hein, où un sujet qui a une intelligence plutôt faible va, à la suite d'une intervention dont on ne sait pas grand-chose en pratique, mais va voir son QI petit à petit se développer avec, malheureusement, bon, une fin que je ne vais pas dévoiler. Et alors, l'idée qu'on puisse intervenir pour développer l'intelligence, c'est une idée qui, effectivement, a un grand succès dans les... Et parfois repose sur un malentendu, avec notamment ce mythe un petit peu du 10%. Hein. Alors, 10% de cerveau utilisé seulement, on se dit, c'est dommage, en montant, et je vous rappelle de la séquence du film de Luc Besson, Lucie, où je crois que c'est Morgan Freeman qui fait un discours où il imagine ce qu'on pourrait avoir si seulement on arrivait à 20% de notre cerveau, etc. etc. Et ça, c'est évidemment un mythe. On utilise bien tout notre cerveau entièrement. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, les examens en imagerie fonctionnelle, en IRM fonctionnelle, hein, qui consistent à donc voir des tâches et établir des corrélats neuronaux d'activité avec ce que disait Pierre Cossonogès du pouvoir iconique, hein, de ces images, qui est un pouvoir exorbitant. Hein. On attribue un petit peu trop de choses à ces images, mais elles sont quand même utiles parce que nous, elles nous permettent de faire donc, voilà, ce qu'on appelle des corrélats entre des activités, que ce soit des activités, des tâches cognitives, des tâches mentales, et des patterns d'activation. Je disais que ces images qu'on voit, en fait, sont des variations de l'ordre de 5% de l'activité du cerveau sur, en fait, un métabolisme de base qui est énorme. C'est-à-dire que rien que de maintenir nos membranes à l'équilibre consomme 90-95% de notre activité cérébrale. Et le reste, c'est ce que nous utilisons pour parler, pour marcher, pour penser, etc. etc. Donc, on utilise bien 100% de notre cerveau, il n'y a pas de doute.
Voilà, ça, c'est un neuromythe, hein, qui a largement d'ailleurs diffusé l'idée que le cerveau était un capital personnel à développer. Alors, les cerveaux autonomes seront-ils l'avenir du cerveau humain ? À quoi ressemble le cerveau du futur ? Restez à l'écoute.
Ceci est un neurolaser. Il nous a été offert par des amis de province. Ce petit œil rouge isole les impulsions électromagnétiques du cerveau et plus précisément celles de la mémoire. Excellent, messieurs. Passez-moi toute l'assiette au crash-flamme avec couloir à 20, 40 et 60 mètres à partir de là-bas. Merci.
France Culture. La science CQFD. Natacha Trio.
Parfait. Merci.
Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ?
Excellente question. Et vous y trouverez la réponse en regardant ici.
Et qui êtes-vous, en réalité ?
En réalité, rien de plus qu'un fragment de votre imagination. Ces humains adorent les bobards.
En direct sur France Culture avec Pierre Cassounogas et Laurent Vercueil, nous parlons de ce que la SF fait au cerveau humain. On vient d'aborder un certain nombre de concepts en neurosciences. Impossible d'arriver au bout de cette émission sans parler justement aussi du cerveau humain tel qu'il est imaginé et conçu par les auteurs de science-fiction. Mais pour l'avenir, Laurent Vercueil.
Le cerveau de l'avenir, il est encore assez brumeux. Hein. Maintenant, on peut s'inspirer peut-être un petit peu de comment les auteurs voient les cerveaux aliens, c'est-à-dire des choses qui sont extrêmement éloignées de nous, y compris sur le plan évolutif, puisque la séparation avec les aliens, elle remonte au Big Bang, donc, en quelque sorte. Donc, pour beaucoup de choses, et à partir de Wells et des Martiens, ce sont finalement des cerveaux qui sont très anthropomorphiques, c'est-à-dire qu'ils ont un peu les mêmes qualités que nous, ils ont des propriétés plus développées, ils sont plus intelligents, ils sont plus calmes souvent, ils ont une maîtrise des émotions qui fait qu'on a parlé même de reptiliens assez tôt, hein, dans la littérature de la science-fiction. Mais en fait, il y a quand même des auteurs qui se sont risqués à aller vers quelque chose de plus radicalement différent, c'est-à-dire des cerveaux très 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 hétérogènes, parfois même difficilement accessibles à notre compréhension humaine. C'est le cas, par exemple, d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Peter Watts dans Vision aveugle, qui raconte une expédition donc de terriens, des terriens qui sont assez augmentés ou alors qui sont porteurs d'infirmités. Il y a d'ailleurs un sujet qui a été opéré pour une épilepsie et qui a un seul hémisphère. Et donc cet équipage part à la rencontre d'un dispositif extraterrestre extrêmement éloigné et qui va en fait leur être extrêmement étranger au point de vue cognitif. Hein. Et si le roman s'appelle Vision aveugle, c'est parce qu'il fait référence à un état neurologique très particulier, qui sont des gens qui ont des lésions du cortex visuel et qui donc sont aveugles. Sauf que on n'a pas que le cortex visuel pour voir, on a aussi d'autres dispositifs. Et ces dispositifs en fait vont traiter l'information visuelle de manière inconsciente. Et en gros, l'idée est qu'on peut arriver à entrer en relation avec des sujets qui ne sont très hétérogènes autrement qu'avec notre cognition consciente, comme c'est un petit peu le cas aussi dans le roman de Stanislas Lem, Solaris, où un équipage donc arrive sur une planète qui en fait s'avère être consciente, mais d'une manière très particulière. C'est une planète océan qui va interagir avec eux de manière tout à fait intéressante.
Et d'une façon plutôt sensorielle, on pourrait dire. Laurent Vercaille, rapidement, on arrive vers la fin de cette émission, mais pour conclure, on voit à propos de cerveau alien que dès les années 50, les Martiens, les aliens ont souvent un crâne surdimensionné. Est-ce que l'avenir évolutif du cerveau humain, c'est ça, un gros cerveau ?
Non, alors notre cerveau, il est quand même très contraint, notamment par le fait qu'on a besoin d'être porté par des mamans et que des mamans ont besoin d'accoucher par des voies qui sont ce qu'elles sont, notamment du fait de la bipédie. Donc, c'est la raison pour laquelle le bébé humain naît extrêmement prématuré, hein, il naît très tôt, il a besoin de soins de manière très très prolongée, bien avant ceux de nos collègues mammifères. Hein. Et ça va être une contrainte insurmontable. Un moyen d'améliorer encore notre cerveau, c'est peut-être de développer la vitesse de traitement d'information. Et ça repose notamment sur le calibre des ponts de substances blanches qui relient les différentes régions du cortex. Or, le problème, c'est que ça prend de la place aussi. Donc, multiplier le calibre, c'est aussi limité par la taille du cerveau. Donc, il n'y a pas que le cortex, il y a aussi les câbles. On est un peu coincé. Donc, je pense que le cerveau, il est un petit peu au taquet, hein, au point de vue cognitif.
On a aussi Pierre Kasunoga sur les cerveaux autonomes, hein, qui peuplent la SF. On a beaucoup d'exemples. Lovecraft, celui qui chuchotait dans les ténèbres, on a un cerveau placé dans des cuves pour voyager comme ça sur des distances interstellaires. Ça pose des questions un peu perturbantes. Est-ce qu'un tel cerveau pourrait faire l'expérience d'une existence normale, pour conclure ?
Oui, alors effectivement, il y a la question des cerveaux dans les cuves, qu'on retrouve aussi dans Matrix, mais sur cette question des cerveaux de demain, pour moi, la question finalement, c'est est-ce que les cerveaux de demain, ce seront encore des cerveaux ? Et est-ce que dans un avenir très très proche, justement, on ne peut pas imaginer d'une part des cerveaux en fait augmentés par la technologie, d'une certaine façon. Tout à l'heure, j'arrivais pas à me souvenir du titre du film d'Alain René, mais en général, il suffit que je regarde sur mon téléphone, je le retrouve tout de suite, j'ai plus besoin de m'en souvenir. Et il y a une espèce de dialectique avec ces instruments techniques, hein, pas du tout des implants, mais simplement des téléphones qui, à la fois, peuvent appauvrir nos capacités lorsque nous n'en disposons pas, mais peuvent les élargir lorsque nous en disposons. Donc, peut-être des cerveaux qui sont en fait connecté à une multitude d'autres applications qui les transforment. Et d'autre part, une des choses qui m'intéresse le plus, c'est l'influence, par exemple, du biotope sur la pensée et des microbes. Est-ce que finalement, on pourra encore parler d'un cerveau ou bien ne faudra-t-il pas rattacher la pensée et l'émotion à l'ensemble du corps ?
Et dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandre Morales. Merci en tout cas à vous deux pour de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Je rappelle que pour compléter l'écoute, je renvoie nos auditrices et nos auditeurs vers votre ouvrage, Pierre Kasunoga's Technofiction, aux éditions du Cerf, et le vôtre, Laurent Vercueil, Neuroscience-Fiction, Les cerveaux d'ailleurs et de demain, aux éditions Le Bélial. Après nous être tournés vers le futur, on retourne dans le passé, à l'âge de fer. C'est la chronique avec science.
Quelle était la place des femmes dans les sociétés celtiques au début de notre ère ? L'âge du fer, c'est une période au nom évocateur bien sûr, on la définit par l'apparition et la généralisation de l'usage du fer dans les sociétés anciennes. C'est une période dont les bornes varient selon les régions bien sûr, et pour l'Europe occidentale, elles vont de moins 800 jusqu'à la fin du 1er siècle de notre ère. Et quid de la place des femmes dans ces sociétés? Eh bien, nos auditeurs les plus friands d'histoire auront déjà eu vent de la fameuse Boudica ou Boadicée, reine celte du 1er siècle qui a mené une rébellion contre l'Empire romain. Elle est une figure éminente de la femme guerrière réappropriée par le roman national britannique, un peu à la manière de notre Vercingétorix. Et on peut aujourd'hui affirmer sans trop d'erreur qu'elle a endossé des fonctions politiques et militaires. Si l'on ajoute à cela des textes gréco-latins de la période et les registres archéologiques, on peut supposer que la femme jouissait chez les Celtes d'une assez grande autonomie. Attention cependant à l'histoire telle qu'elle est rapportée par ses contemporains. Anthony Lefort est archéologue à l'INRAP, spécialiste des relations établies à travers la Manche à l'âge du fer.
Ces populations anciennes, on les connaît presque exclusivement par les textes qui ont été rédigés par leurs vainqueurs. C'est ce qu'on dit souvent, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et a fortiori, quand on soumet des peuples qui n'utilisaient l'écriture que de manière très parcimonieuse, puisque voilà, les textes littéraires celtes se limitent vraiment à quelques assemblages de lettres sur des graffitis, des choses comme ça, des tablettes de comptes, mais voilà, il n'y a pas de littérature. On est sur une littérature orale. On pense évidemment à l'héritage des druides, hein, qui enseignaient justement de manière orale pour ne pas fixer justement la connaissance et les risques d'erreur que cette connaissance d'un moment donné pouvait justement porter. Et donc en fait, on connaît ces textes-là par les vainqueurs avec forcément un biais documentaire, une vision déformée pour plusieurs motifs, hein, qui puissent être tout simplement un décalage culturel, hein, ou aussi des biais idéologiques. Et là, évidemment, la propagande romaine en est très chargée.
L'autonomie des femmes celtes doit avoir une part de vérité, bien sûr, mais pour s'assurer de cela et pour comprendre les relations interpersonnelles de l'âge du fer, il faut pousser un peu les recherches. Dans leur publication dans Nature, les généticiens et archéologues britanniques ont joint leurs forces pour analyser les sépultures de plusieurs cimetières datant des alentours du 1er siècle de notre ère, situés dans le Dorset. Il s'agit d'une région maritime du sud de l'Angleterre qui fait face à l'actuel Cotentin et qui est à cette période le principal point d'entrée des importations de biens commerciaux dans l'île de Bretagne. C'est donc un carrefour commercial très actif et qui intéresse particulièrement les archéologues. Alors les chercheurs se sont intéressés à 55 sépultures, l'analyse de l'ADN mitochondrial, une part de notre génome qui n'est transmise que par la mère, a permis d'établir des arbres généalogiques des familles enterrées dans ces endroits. Ce que révèle ce travail de généalogie, c'est que les individus présents sur ces sites étaient principalement reliés les uns aux autres par leur mère et que les hommes auraient eu tendance à être plus mobiles. Ça sous-entend tout simplement que lors d'un mariage, ce devait être plutôt l'homme qui se déplaçait pour aller vivre dans le village de son épouse. C'est ce qu'on appelle la matrilocalité. Alors, ces résultats tendent à confirmer la place relativement importante des femmes dans certaines sociétés celtiques, mais attention à ne pas faire de généralité.
Ce qui a été démontré sur ce site-là ne peut pas non plus être généralisé à l'ensemble des populations celtiques européennes, qui a forcément des variations d'une région à une autre, d'ordre voilà, hein, culturel par exemple. Mais si je prends l'exemple du site d'Urville-Nagville, hein, qui est un site littoral normand à vocation portuaire, impliqué dans le commerce maritime avec le sud de l'Angleterre et en particulier le Dorset, on a un scénario un peu différent, puisque là, ça témoigne plutôt d'une forte mobilité des femmes. Ce qui est important, en fait, dans le résultat de cette étude, c'est vraiment, pour moi, qui m'intéresse à la question des relations transmanches, c'est d'avoir pu confirmer, d'un point de vue irréfutable, hein, la mobilité des individus à cette période-là, qui correspond à un essor économique assez important sur les deux rives de la Manche.
Cette étude s'inscrit dans un mouvement venu du monde anglo-saxon qu'on appelle l'archéologie du genre, un courant qui se diffuse et qui cherche tout simplement à mettre en lumière la place des femmes au cours de l'histoire, une démarche essentielle pour comprendre toute la complexité des sociétés passées.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Ali Ruyère-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Jean-Guy Lamège. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.